Vous êtes sur RTL.
7h45, très bonne journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Après des heures d'incertitude et ce suspense, on a donc appris que la France va accueillir 18 des 58 migrants de l'Aquarius qui finalement va débarquer à Malte. Est-ce qu'il est proche des côtes et est-ce que dans les heures qui viennent, les migrants vont débarquer sur l'Europe ?
Le bateau est proche des côtes de Malte depuis hier. Il est vraisemblable que les naufragés vont être transbordés sur un navire maltais et pris en charge par Malte. Et dès l'arrivée à quai...
Vous voulez dire qu'il ne va pas débarquer directement sur les côtes? Pourquoi?
Je vous rappelle que l'Aquarius n'a plus de pavillon aujourd'hui et qu'il est dans une situation juridique compliqué, qui va évidemment essayer de résoudre.
Il pourrait être séquestré s'il accostait, c'est ça sa crainte?
En tout cas, la question se poserait. Alors, il faut leur poser la question à eux-mêmes, mais je pense qu'aujourd'hui, une précaution pour l'Aquarius, c'est de ne pas accoster n'importe où, on va dire.
Donc.
Mais en tout cas, Malte a accepté la prise en charge des naufragés de l'Aquarius, et quatre pays européens de bonne volonté, la France, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne, ont décidé d'accueillir les naufragés de l'Aquarius.
Dont 18 par la France. Est-ce que tout se relève du droit d'asile ?
Alors c'est ce qu'on verra. L'agence française en charge des réfugiés, l'OFPRA, va se rendre dans les heures qui viennent à Malte, comme elle l'a fait à Valence, comme elle l'a fait tout l'été. Au total, depuis juin, la France a toujours pris sa part. C'est même le pays qui a toujours été le plus rapide à accueillir
ses
naufragés.
Depuis juin?
Depuis juin, 250.
250 migrants qui étaient à bord de ces navires humanitaires ont été accueillis et donc sont en France maintenant.
Sont en France. C'est-à-dire qu'on parle d'une poignée de gens. C'est-à-dire que ce qui se passe depuis juin, ça n'est pas un afflux migratoire sans précédent, c'est même plutôt tout le contraire. Il y a à peu près 10 fois moins de traversées vers l'Italie, que l'année dernière. Et pour ces poignées de gens, il a fallu à chaque fois que le président de la République appelle ses partenaires européens pour les convaincre, et c'est toujours ceux qui sont de bonne volonté, les progressistes, d'accueillir des naufragés.
Cette poignée de gens, Nathalie Loiseau, comme vous dites, je reprends votre expression, pourquoi ne pas les accueillir directement en France ?
Pourquoi cette crise existe depuis juin ?
Mais pourquoi ne pas les accueillir en France ?
Par exemple,
une grande partie de la gauche, vous l'avez demandé au nom des valeurs, la patrie des droits de l'homme, une poignée de gens, je reprends votre terme.
Et pourquoi est-ce que l'Italie refuse de les accueillir ? Pourquoi est-ce que
c'est
cette crise...
C'est une confrontation, c'est uniquement pour ne pas céder à l'Italie
non.
que la France déroge à ce qui devrait être, selon certains, son devoir humanitaire ?
Non, c'est pour respecter le droit international et pour prendre notre part de notre devoir humanitaire. Le droit international est bafoué depuis des mois. Aujourd'hui, c'est la loi de la jungle qui règne en Méditerranée. Des passeurs qui envoient sciemment au naufrage des migrants ou des demandeurs d'asile parce qu'il n'y a pas une seule embarcation qui est capable de traverser la Méditerranée, ils le savent, c'est même fait pour. Aujourd'hui, ce sont des canots pneumatiques de piètre qualité qui prennent l'eau à peine après avoir quitté les côtes libyennes. Et derrière, vous avez les ports sûrs les plus proches, qui sont les ports italiens, qui sont fermés de la décision d'un homme, Matteo Salvini. Cette décision fait même... Aujourd'hui, il est poursuivi par la justice italienne.
Monsieur...
Je rappelle simplement, je voudrais juste terminer là-dessus, cette décision fait qu'aujourd'hui, la justice italienne le poursuit pour séquestration.
Il a traité Emmanuel Macron à plusieurs reprises d'hypocrite. Je le cite, que le héros de la lutte contre le nationalisme et la xénophobie, donc Emmanuel Macron, ferme les portes de son pays aux immigrés, c'est un comble.
100 000 demandes d'asile en France l'année dernière et je le disais depuis juin, la France est le pays qui à chaque fois, quand ces bateaux sont arrivés au large des côtes européennes, a pris sa part alors que l'Italie, en tout cas Monsieur Salvini, s'y est refusé. Monsieur Salvini aujourd'hui c'est Ponce Pilate, c'est obscène. Quand il y a des gens qui sont en train de risquer de se noyer, M. Salvini préfère regarder ailleurs.
Mais c'est vrai que le président Macron aussi est pris dans une contradiction entre défendre les valeurs d'accueil de la France et ne pas donner de prise au populisme ambiant qu'incarne Matteo Salvini.
La voix précisément, étroite. Je trouve qu'il la résout bien, cette contradiction, si vous voulez que ce soit une.
Avec des hésitations, avec des
avec le fait qu'à chaque fois, c'est lui qui organise l'accueil et la répartition de ces naufragés. À chaque fois, c'est lui qui prend son téléphone.
C'est lui qui téléphone à Malte et
absolument.
Qui impose à Malte de trouver cette solution nous évite, nous.
On n'impose rien à personne dans l'Union européenne. On se parle de manière respectueuse, mais à chaque fois, c'est autour d'Emmanuel Macron qui appelle Angela Merkel, qui appelle Pedro Sanchez, qui appelle ceux qui sont de bonne volonté, et notamment Malte, qui pourrait, compte tenu de sa taille et compte tenu de sa géographie, dire pas nous, plus nous, et c'est pas ce qu'ils font.
Une petite question sur ce qui se passe. Vous disiez, il y a des bateaux qui se sciemment, des passeurs qui sciemment mettent des migrants candidats à la migration sur des embarcations dont ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas aller au bout, etc. Est-ce que un bateau comme l'Aquarius fait le jeu des passeurs ?
Non, l'Aquarius fait son devoir d'ONG comme des gardes-côtes, comme les bateaux de l'opération européenne qui s'appelle Thémis, qui recueille des personnes qui risquent de se noyer. Quand vous avez en mer, quelle que soit la nature d'un bateau, vous croisez une embarcation qui risque de se noyer, évidemment vous venez en aide aux passagers. En revanche, mieux lutter contre ces trafics d'êtres humains...
On ne le fait pas suffisamment. Dans une note confidentielle que vous signez, elle date du 3 août et qui a été révélée par l'Express, vous dénoncez l'inefficacité de la lutte contre les passeurs, Madame Moulazo.
Alors, l'Express écrit ce qu'il veut. Cette note, j'écris souvent au président de la République, y compris sur la question des migrations. Il y a une partie de notre travail qui est efficace, puisque 80-90% d'arrivées en moins en Italie, ça veut bien dire qu'on est efficace. Mais je pense qu'on doit faire plus, qu'on doit aller casser cette espèce de modèle économique, l'un des plus lucratifs de tous les trafics illégaux à travers le monde. C'est vraiment le trafic des vies humaines. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir pourquoi les gens sont en train de se noyer. C'est des noyades organisées.
Madame Loiseau, est-ce qu'il faut accorder un pavillon français à l'Aquarius, qui n'en a plus, on a commencé par là?
Alors, je ne sais pas ce que l'Aquarius va demander. La question du pavillon va se poser par la suite.
Un de ses responsables dit, demander aux Européens et... Pourquoi pas la France ?
Écoutez, il y a un armateur allemand aujourd'hui. C'est à la SOS Méditerranée de discuter avec son armateur allemand.
Sur
la question du port d'attache s'est posée aussi.
Est-ce que vous seriez favorable à ce que la France ait un bateau, qui est un bateau humanitaire
La France participe à l'opération de l'Union européenne qui navigue à travers les eaux de la Méditerranée et des bateaux d'État français ont déjà sauvé de nombreuses vies depuis des années.
Vous ne mouillez pas sur cette question.
C'est pas ça. La course n'est pas à savoir. Ce que je note quand même, c'est que ces bateaux d'ONG jusqu'à maintenant ont eu des pavillons de Gibraltar, de Panama, c'est-à-dire souvent des pavillons de complaisance. Certains sont repartis parce qu'ils avaient déclaré depuis le début leur activité de sauvetage. D'autres pas. C'est vrai qu'il y a aussi besoin d'une clarification. En tout état de cause, nous, notre priorité, c'est de venir en aide à des gens qui ont failli se noyer.
Et l'Aquarius qui va, le Premier ministre l'a confirmé hier, revenir à Marseille, après avoir effectivement débarqué en mer.
Mais SOS Méditerranée a aussi dit qu'il ne souhaitait pas que Marseille soit son port d'attache parce que c'était trop loin de la zone de sauvetage.
Donc vous ne vous prononcez pas en tout cas sur le souhait des responsables de l'Aquarius de battre pavillon français. Un ancien Premier ministre français qui brigue un siège de maire à Barcelone. Certains l'accuseront de trahir la France. Il s'agit de Manuel Valls.
C'est son opposante dans sa circonscription de l'Essonne, opposante de France Insoumise, qui une fois de plus a des relents nationalistes que je trouve assez détestables. Moi, je trouve que c'est courageux de la part de Manuel Valls, parce que c'est tout sauf gagné. C'est aussi son histoire personnelle. La Catalogne, c'est pas depuis hier qu'il en parle. C'est un beau symbole européen. Quand Manuel Valls est né, l'Espagne était sous le régime franquiste. On n'aurait pas imaginé, peut-être à l'époque, qu'elle ferait partie de l'Union européenne et qu'aujourd'hui, un ancien Premier ministre français, pourrait candidater à la mairie de Barcelone.
Du courage. Donc la semaine prochaine, Nathalie Loiseau, vous présenterez au Conseil des ministres un projet de loi pour tenter d'éviter le chaos qui pourrait subvenir d'un non-accord sur le Brexit. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine sur l'antenne, mais en quelques mots, il pourrait y avoir effectivement des conséquences très concrètes et assez chaotiques pour la France?
Alors d'abord, on travaille sur un bon accord. Il est encore possible, le temps presse, mais il est encore possible et c'est notre priorité. Derrière, il peut aussi ne pas y avoir d'accord, parce qu'on le voit, la situation politique intérieure britannique est compliquée. Et sur quel accord acceptable par les Européens, Madame May aurait demain une majorité aux communes, je ne le sais pas. Alors, il ne faut pas avoir peur d'un non-accord. Il faut s'y préparer. C'est très précisément ce que nous faisons. Nous anticipons pour faire en sorte qu'au 30 mars, au cas où nous n'aurions pas réussi à nous mettre d'accord avec les Britanniques, il n'y ait pas de conséquences négatives pour les citoyens français, pour les entreprises françaises.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Juste un exemple.
Un exemple très simple. Un Français qui aurait pris sa retraite au Royaume-Uni et qui rentrerait en France, s'il n'y a pas d'accord et si nous ne nous y préparons pas, n'aurait plus ses droits à la retraite une fois arrivé sur le territoire français, parce que le Royaume-Uni serait sorti sans accord de l'Union européenne. Ça n'est évidemment pas possible. C'est pour ça que je présente un projet de loi la semaine prochaine, pour que toutes ces conséquences auxquelles nous avons réfléchi trouvent une réponse appropriée. Attends, il faut se préparer, il faut anticiper, ne pas se réveiller le 30 mars en disant « Eh, pas d'accord, c'est une catastrophe ». Non, ça n'est pas une catastrophe, ce ne serait pas une bonne nouvelle, ce serait une catastrophe pour le Royaume-Uni, beaucoup moins pour l'Union européenne, surtout si on est préparé.
Merci Nathalie Loiseau d'avoir été ce matin sur RTL.
Et c'est Cyprien Sini qui est avec nous dans un instant. L'intégralité de cet entretien est à suivre comme chaque jour sur le site rtl.fr.
RTL Matin, 7h56.